Au Testament, il y a deux textes, deux livres très importants. Tous le sont bien vus, bien évidemment. Mais il y en a deux particulièrement qui attirent notre attention cet après-midi. C'est d'abord les évangiles qui nous parlent de ce que Jésus a fait, ce qu'il a enseigné, de tous les miracles qu'il a accomplis, de l'enseignement qu'il a laissé. Et puis, il y a bien sûr le livre des Actes, dans lequel nous venons de lire il y a quelques instants cette histoire. Cette histoire, en fait, c'est le récit du tout premier miracle que les disciples de Jésus ont accompli après que Jésus est remonté au ciel. Et c'est peut-être pour cela que ce miracle a une particulière importance dans le livre des Actes, parce que jusque-là, les disciples étaient restés seuls, sans Jésus. Et je pense que lorsque Jésus est remonté au ciel, qu'ils se sont retrouvés tout seuls, ça leur a fait tout drôle, parce qu'ils étaient habitués depuis presque 3 ans, ou plus que 3 ans, environ 3 ans, disons. Ils étaient habitués à voir Jésus, à passer leur journée entièrement avec lui, à l'écouter, à le voir faire des miracles. Mais bien sûr, à part lorsque Jésus les avait envoyés deux par deux, vous vous rappelez dans les évangiles, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour prêcher le royaume de Dieu. Ce jour-là, ils avaient aussi, dit la Bible, l'évangile, ils avaient accompli des miracles. Mais là maintenant, ils étaient avec Jésus à l'époque. Mais là maintenant, ils se retrouvent tout seuls. Jésus n'est plus là. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et pendant une dizaine de jours, nous dit le livre des Actes, ils sont restés seuls à prier dans la chambre haute. Et vous savez que dans la chambre haute, au bout de 10 jours, il s'est passé un événement extraordinaire. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à voir les choses différemment. Je dis cela parce que je vais y revenir tout à l'heure. Parmi toutes les promesses que Jésus avait faites à ses disciples, il y a celle qui est contenue dans Jean, chapitre 14, verset 12, et où Jésus a dit à ses disciples, je ne sais pas comment ils l'ont reçu quand ils l'ont entendu la première fois, mais Jésus a dit ce jour-là à ses disciples, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Il voulait certainement parler des miracles et des autres œuvres extraordinaires. Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Alors, imaginez un instant les disciples de Jésus, les apôtres, les 12 apôtres, qui sont avec Jésus tous les jours et qui tout d'un coup entendent Jésus dire « Quand je serai parti, vous ferez les mêmes choses que moi et vous en ferez même de plus grandes. » Jésus avait fait des œuvres extraordinaires. L'apôtre Jean, à la fin de son évangile, a même écrit que si on avait écrit tous les miracles que Jésus a fait pendant qu'il était 3 ans de ministère public, les livres que pourrait contenir toute la terre n'auraient pas pu contenir tout ça ici. C'est pour dire que Jésus a dû accomplir beaucoup de miracles, partout où il allait, tous les jours. Il guérissait des malades, il accomplissait des choses extraordinaires. Alors, dans l'évangile, c'est Jésus qui agit. Maintenant, dans les Actes des apôtres, ce sont les disciples, les apôtres de Jésus, qui vont commencer à entrer en action, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons ici un exemple de ce que les apôtres vont pouvoir faire. Vous savez que Jésus avait dit avant de quitter ses apôtres, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et entre autres, il dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors voilà, un après-midi, Pierre et Jean, qui ont repris, semble-t-il, leur vie habituelle, on ne sait pas trop comment les onze apôtres ont continué à vivre ces journées-là. Ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais après, visiblement, ils étaient à Jérusalem, et visiblement, ils allaient au temple, comme le faisait Jésus quand il était à Jérusalem. Ils allaient au temple, et là nous les voyons allant au temple, comme sans doute tous les jours, à l'heure de la prière, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures. On pourrait dire simplement une réunion de prière, comme toutes les réunions de prière. Il y a des réunions de prière un peu plus animées, un peu plus puissantes que d'autres, et puis d'autres qui sont beaucoup plus calmes, tranquilles, je dirais presque routinières, même s'il ne faut pas tomber dans la routine, nous le verrons tout à l'heure. Et cet après-midi-là, Pierre et Jean vont, comme d'habitude, au temple. Nous dirions aujourd'hui, ils sont allés, comme d'habitude, à la réunion de prière de, par exemple, du mardi à 15h, à l'église. Dans beaucoup d'églises, nous voyons cela, il y a des réunions de prière tel jour de la semaine, le mardi ou le jeudi ou le mercredi, à 15h. C'est une heure souvent que l'on prend pour des réunions de l'après-midi. Et ils ne se doutent de rien. Ils ne se doutent de rien. Ils se disent, on va aller prier comme d'habitude, même si l'habitude n'est plus tout à fait de circonstance, puisque quelques jours après, quelques semaines avant, ils avaient été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc j'imagine que leur réunion de prière ne devait pas être tout à fait la même, mais c'était dans le temple. Et dans le temple, il fallait pas se mettre à prier dans d'autres langues comme le jour de la Pentecôte, il fallait rester tranquille parce que le temple, c'était le temple du judaïsme. Ce n'était pas l'évangile. Donc, ils allaient quand même dans le temple, ils priaient, à leur manière à eux, discrètement sans doute, et ils ne se doutaient pas que ce jour-là, il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. À l'entrée du temple, il y avait plusieurs cours autour du temple. Il y avait notamment ce que l'on appelait la cour des païens, qui était réservée à ceux qui n'étaient pas juifs. Et quand on passait une certaine porte, on entrait dans la cour des juifs. Et c'est à l'entrée de cette cour qu'il s'arrête. Il s'arrête et que dit le texte ? Le texte dit qu'il y avait là un homme qu'on était justement en train de porter, un infirme. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Notez bien le « tous les jours » à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Tableau très connu, hein, on voit souvent devant certaines de nos églises, notamment peut-être plus les églises catholiques, des gens, des mendiants qui s'assoient là et qui attendent que les gens sortent de l'église. On les voit bien sûr dans bien d'autres endroits, mais notamment devant les églises, parce qu'ils se disent peut-être que ceux qui viennent à l'église ont un cœur un peu plus ouvert pour ce genre de choses que ceux qui vont ailleurs. Cet homme, nous avons remarqué, premièrement, il était boiteux de naissance. Cet homme, je crois qu'on peut le décrire par trois mots. Premièrement, il était malade, disons handicapé. Être boiteux, c'est pas vraiment une maladie, c'est un handicap. Il était malade, handicapé. Deuxièmement, cet homme dépendait des autres, puisqu'il est dit, on le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Et troisièmement, c'était un homme habitué puisqu'on le portait et on le plaçait tous les jours. Cet homme était malade, handicapé depuis toujours, depuis sa naissance. Parce que si on dit boiteux de naissance, on va dire mais quand il est petit, il ne marche pas, donc qu'il soit boiteux ou pas, c'est pas le moins important, mais cela veut dire qu'il était handicapé depuis toujours. Que lorsqu'il a commencé à marcher comme tous les enfants vers 12, 13, 14, 15 mois, on a tout de suite remarqué qu'il avait un problème. Et ce problème n'a pas été guéri. Ce problème l'a placé dans ce handicap dès le départ. Donc, cet homme avait une vision différente des autres. Ce petit garçon ne pouvait pas courir comme les autres enfants. Et vous savez que pour un enfant, il y a d'abord l'étape de se mettre debout. Ensuite, il y a l'étape qui consiste à marcher, et puis ensuite une autre étape qui consiste à se mettre à courir. Et chaque étape marque un temps dans la vie de l'enfant, quelques mois d'écart. Et après, il court, il saute, il fait un peu tout ce qu'il veut. Il bouge dans tous les sens, notamment si c'est un petit garçon, mais les petites filles aussi bougent pas mal. Donc ce petit garçon a grandi, et il a grandi avec une vision limitée de la vie, limitée par son handicap. Il voyait les autres, et il vivait dans une sorte de frustration, parce qu'il ne pouvait pas bouger comme les autres. Il vivait dans une sorte de frustration. Comme il vivait dans une sorte de frustration, sa maladie, son handicap, lui donnait des sentiments qui étaient des sentiments d'amertume, certainement. Pourquoi moi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi moi je ne peux pas bouger? Pourquoi moi je ne peux pas marcher aussi bien que les autres? Pourquoi moi je ne peux pas courir comme les autres? Cet homme était donc malade. Deuxièmement, nous avons dit, il était dépendant. Dépendant, il avait besoin que quelqu'un le dépose tous les jours devant la porte du temple. Le texte dit, une autre traduction dit, on était justement, au moment où les apôtres arrivent, on était justement en train de porter un infirme, on l'installait là tous les jours. Cet homme avait besoin qu'on l'amène, parce qu'il était infirme. Donc, cet homme dépendait des autres. De qui? Nous ne savons pas, il n'est pas dit, il est dit « on ». On ne désigne personne en particulier, mais on, c'était peut-être des parents, peut-être c'était des amis, peut-être c'était des voisins, peut-être c'était des membres de la même synagogue que lui ou des gens qui venaient au temple tous les jours et qui avaient pris la décision, puisqu'il l'amenait tous les jours, de le déposer en venant. Cet homme était donc dépendant des autres. Sans les autres, il ne pouvait rien faire. Sans les autres, il ne pouvait pas recevoir cette aumône qui lui permettait certainement de demander à quelqu'un d'aller lui acheter à manger, de le nourrir, de le vêtir. Et puis, peut-être le point le plus important pour nous cet après-midi, cet homme vivait dans une sorte d'habitude. Bien sûr, me direz-vous, si on est handicapé, on ne peut pas rêver de faire beaucoup de choses. Hein, quand on a 30, 40 ans ou même 20 ans, aujourd'hui on voyage de bonne heure, on peut rêver de voyager. Mais comment rêver quand on est handicapé? Il va falloir voyager avec quelqu'un d'autre, et puis ce ne sera pas toujours facile. Cet homme s'était installé dans une sorte d'habitude. Tous les jours, à la même heure probablement, des gens venaient le chercher et l'amenaient à la porte du temple pour qu'il puisse faire l'aumône. Vous savez, l'habitude n'est pas mauvaise en soi. Il y a bien sûr des bonnes et des mauvaises habitudes. Par exemple, l'habitude de se lever le matin. Bon, il est conseillé de se lever le matin. Il est conseillé de se lever le matin, pourquoi? Parce qu'on peut réaliser plus de choses, et si on travaille dans la journée, il est conseillé de se lever le matin. Il est conseillé de manger aussi, tous les jours, régulièrement. Il est conseillé, par exemple, dans d'autres domaines, quand vous achetez un produit alimentaire, il est conseillé de regarder la date de péremption. Parce que quelquefois, on ne fait pas attention et on se rend compte qu'on a acheté un produit qui était déjà périmé. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais s'il est périmé depuis 24 heures, mais parfois il est périmé depuis bien plus longtemps. On le met de côté en se disant, on le consommera quand on aura le temps, quand on aura envie, puis on se rend compte quand on décide de le consommer qu'il est périmé. Il y a des habitudes qui sont bonnes, des choses qui sont bonnes à vérifier. Quand on achète notamment des choses, il est bon de vérifier l'état de la chose. Dans le domaine spirituel, l'habitude peut également être très bonne, mais elle peut devenir dangereuse. Vous savez, si on fait les choses par habitude, dans le domaine spirituel, ce n'est pas forcément bon. Alors, l'habitude de venir à l'église, c'est bien. Mais si on prend l'habitude de venir à l'église régulièrement, c'est bien. Mais si on vient à l'église uniquement par habitude, ce n'est pas bon. Il faut venir à l'église pour trouver un moment de communion avec Dieu et avec ses frères et sœurs dans la foi. Il y a des gens qui viennent à l'église, je ne parle pas d'ici bien sûr, mais dans d'autres églises où j'ai eu l'occasion de rester, d'être même pasteur, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent à l'église uniquement parce que c'est dimanche. Et s'ils ne viennent pas, après ils se sentent coupables ou ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Mais Dieu ne nous enseigne pas ce genre de relation. Un grand écrivain français a dit un jour, l'âme qui est habituée est une âme morte, parce qu'elle ne réfléchit plus à ce qu'elle fait. Elle ne vit plus vraiment sa foi. Elle vient et elle fait les choses par habitude. On peut lire la Bible par habitude. On peut même se fixer des objectifs. Je vais lire un chapitre par jour. Alors on le lit, puis après, on part au travail et on oublie. Ou on part à l'école et on oublie. L'habitude se rapproche parfois d'une certaine tradition que l'on respecte uniquement parce que c'est une tradition. Cet homme était habitué. Chaque fois que quelqu'un rentrait dans le temple, il tendait la main. Il ne se posait pas de questions. Il ne s'interrogeait pas sur qu'est-ce qui se passe dans le temple. Qu'est-ce qu'on y fait? Oh, il devait le savoir. Mais comme il ne pouvait pas y entrer parce que la loi était très stricte au sujet des handicapés, et elle interdisait par exemple aux handicapés de devenir prêtres. C'était impossible. Même si on était de la tribu de Lévi, la tribu des prêtres, si on était handicapé, on ne pouvait pas l'être. Il fallait avoir un corps sans défaut. Comme pour les sacrifices d'animaux, il fallait que l'animal soit aussi sans défaut. C'était des symboles et même des réalités importantes. Alors, laissons un instant cet homme, avec sa situation particulière, et pensons maintenant aux deux apôtres qui vont le rencontrer. Ces deux apôtres, Pierre et Jean, ont vécu pendant près de 3 ans une expérience extraordinaire, exceptionnelle. Ils ont vécu pendant 3 ans avec Dieu, parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et Jésus a dit, « Celui qui m'a vu, a vu Dieu. » C'est pour dire que leur expérience était exceptionnellement profonde. On ne peut pas vivre quelque chose de plus grand que de vivre dans la présence de Dieu. Alors je dis pendant 3 ans, même pendant un jour, même pendant 3 jours. La présence de Dieu est certainement pour le croyant, pour le chrétien, ce qu'il y a de plus extraordinaire. Qu'ont vu les deux apôtres pendant qu'ils étaient avec Jésus? Ils ont vu, comme nous le disions tout à l'heure, Jésus faire des miracles. Ils ont entendu Jésus prononcer des paroles comme personne ne les avait prononcées. Pas seulement prononcer des paroles, mais parler de choses extraordinaires, plus extraordinaires que celles dont parlaient les rabbins, les prêtres de l'époque. Ils ont entendu Jésus apporter un enseignement d'une profondeur extraordinaire. Il est dit d'ailleurs de Jésus que les gens qui l'entendaient disaient « On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. » Et ce n'était pas seulement parce que Jésus aurait été doté d'un talent oratoire exceptionnel. Aucun texte dans l'Évangile, vous remarquerez, ne dit que Jésus avait un talent oratoire exceptionnel. Oh, il devait bien parler. Nul doute que Jésus était quelqu'un qui parlait extrêmement bien. Mais ce n'est pas cet aspect sur lequel insistent les évangiles. Les évangiles insistent sur le fait que Jésus parlait avec une autorité. Donc, une puissance de conviction sur ses auditeurs que personne n'avait manifestée avant lui. En tout cas, à l'époque où il était sur terre. Après le départ de Jésus, nous l'avons dit tout à l'heure, les apôtres ont vécu 10 jours seuls, puis ils ont reçu le Saint-Esprit, et cela a changé leur vie, et également, pour certains, leur personnalité, leur caractère. Nous voyons l'exemple de Pierre, qui, devant une petite servante, une jeune servante, a tremblé, et a tremblé tellement qu'il a menti pour se protéger, et qui, quelques jours plus tard, rempli du Saint-Esprit, va parler devant 3 000 personnes, 3 000 hommes ou 3 000 personnes, ou plus, avec une assurance extraordinaire. Cela montre que le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit était une expérience extraordinaire. Mais voilà, voyez-vous, dans cette histoire, il y a encore un détail qui est important. Alors qu'ils montaient tous les jours au temple pour la prière, ils n'avaient jamais réfléchi à la situation de cet homme. Puisque cet homme, il nous est dit, on le plaçait tous les jours à la porte. Les disciples passaient par là parce que c'était la porte principale pour entrer dans la cour du temple réservée aux Juifs. Tous les jours, il passait, et on pourrait même dire, il passait souvent avec Jésus, pour ne pas dire toujours avec Jésus. Jésus n'avait rien dit. Jésus ne s'était pas arrêté. Les apôtres n'avaient pas remarqué cet homme. Et voici que cet après-midi-là, parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit quelque temps avant, ils le voient et tout d'un coup, ils décident de s'arrêter. Ils s'arrêtent, alors bien sûr, nous avons lu le récit, Il ne s'arrête pas pour lui donner une pièce, ce qu'il attendait. Il s'arrête parce qu'il ne voit plus le même homme. Leurs paroles le montrent. Ils s'arrêtent, ils lui disent, nous n'avons ni argent ni or, parce qu'ils savent que cet homme attend cela, peut-être pas de l'or, mais un peu d'argent. Et ils disent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc les apôtres voient cet homme avec une autre vision. Ils ne le voient plus comme quelqu'un, excusez-moi l'expression, mais qui ferait un peu partie du cadre, parce qu'il est là tous les jours. Vous savez, on voit des mendiants aussi aujourd'hui encore, dans les rues de Paris. Bon, moi j'habite un village à 30 km de Paris et 40 km, et chez nous on ne voit pas de mendiants dans les rues, mais dans les grandes villes, on voit des mendiants dans les rues. Et ils le voient tous les jours sans le remarquer, mais maintenant, parce qu'ils ont reçu la vision du Saint-Esprit, ils remarquent cet homme. Et cet homme va revêtir pour eux une grande importance. Vous avez remarqué que la première chose qu'ils lui disent, c'est « Regarde-nous ». Peut-être que l'homme baisse la tête et il tend simplement sa cibille. Mais ils veulent attirer son attention. C'est un point important du texte aussi, cela. Ils lui disent « Maintenant, regarde-nous ». Regarde-nous parce qu'ils veulent certainement détourner cet homme de sa situation. S'ils lui disent « Regarde-nous », c'est parce qu'ils ne les regardent pas. Ils tendent simplement la main. Pourquoi ? Parce que sa vie est centrée sur ce qu'il a dans la main. Sa vie est centrée sur son besoin de recevoir de l'argent pour vivre, parce qu'il est mendiant et qu'il ne peut pas travailler, parce qu'il est handicapé surtout. Alors, ils veulent le détourner de sa misère, de son état, de sa situation dramatique, pour qu'il regarde vers la solution à son problème. Ils lui disent, regarde-nous, et il nous est dit, l'homme les a observés, il ne les a pas regardés seulement. Il s'est mis à les observer. Il y a une différence entre regarder et observer. Observer, c'est dire qu'il est resté pendant un instant, pendant peut-être un long moment, à les regarder. Et il nous est dit, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais il est certain qu'en les observant, il a remarqué que ces hommes-là n'étaient pas tout à fait comme les autres. Ils avaient vécu 3 ans avec Jésus. Ils avaient été remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient plus les mêmes hommes. Peut-être les avaient-ils remarqués d'autres fois. Et puis, là, il les voit et en les regardant, il les observe et il se rend compte qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose de plus grand. Peut-être, mais là, nous supposons simplement, peut-être avait-il entendu parler de Jésus et peut-être a-t-il reconnu ces hommes-là comme ayant été avec Jésus. Toujours est-il que l'homme les a regardés. Et en les regardant, il a commencé à oublier sa situation. Vous savez que souvent, quand on vit dans des problèmes sans fin, alors premièrement, quand on vit dans des problèmes sans fin, on passe son temps, malgré soi, à ne penser qu'à ses problèmes. Et quand on rencontre des gens, on a tendance à leur parler de nos problèmes et à ne parler que de cela. Pourquoi ? Parce que nos problèmes nous handicapent, nos problèmes nous limitent, nos problèmes nous encerclent et nous ne savons pas comment en sortir. Alors c'est pour cela que les apôtres disent à cet homme, regarde-nous. L'homme commence à les regarder, il les observe. Et en les observant, quelque chose naît en lui. Il sait qu'il pourrait demander à ces gens-là quelque chose. En regardant ces deux hommes, en regardant Pierre et Jean, cet homme va laisser naître en lui quelque chose de plus fort. Non plus une pièce d'argent, mais quelque chose de plus. Parce qu'il comprend sans doute à ce moment-là que ces deux hommes ont quelque chose de plus à lui apporter qu'une simple pièce d'argent. Ils veulent le sortir de sa routine. Ils veulent le sortir de son habitude et bien sûr, par-dessus tout, ils veulent le sortir de son handicap parce que maintenant, la vision que le Saint-Esprit leur donne fonctionne à plein. Alors qu'ils le regardaient toujours avant comme un simple mendiant devant un temple, devant le temple, devant un lieu religieux, maintenant, ils vont le regarder comme un homme pour qui Jésus peut faire quelque chose. C'est ce qu'ils vont faire dans tout le livre des Actes des Apôtres. Ils vont parcourir les villes et les routes de non seulement du pays d'Israël, mais de tous les pays environnants jusqu'à la ville de Rome, puisque l'apôtre Paul, saint Paul, va se promener sur toutes les routes de l'époque et prêcher l'évangile partout. Et partout, nous lisons dans le livre des Actes, où ils allaient, que ce soit Pierre ou Paul, partout où ils allaient, il se passait exactement ce que Jésus avait prédit. Ceux qui croiront en moi feront les mêmes miracles que j'ai faits. Et ils en feront même des plus grands, parce que je serai parti au Père, et que le Saint-Esprit, sous-entendu, sera venu. Avec l'aide du Saint-Esprit, les premiers apôtres vont se rendre compte que la puissance qu'avait Jésus sur terre est restée. Ou plutôt, si elle est partie avec Jésus, elle est revenue avec le Saint-Esprit. Quand l'homme commence à s'attendre à recevoir de quelque chose, c'est la clé du récit. Nous pourrions dire ceci. À quoi nous attendons-nous aujourd'hui quand nous venons à l'Église? À quoi nous attendons-nous quand nous lisons la Bible? À quoi nous attendons-nous quand nous prions? Parce que souvent, nous recevons selon ce que nous attendons. Cet homme, cette fois-ci, s'attendait à recevoir quelque chose de particulier et il a reçu son miracle, si je peux m'exprimer ainsi. Il a reçu ce qu'il attendait des apôtres, c'est-à-dire de Dieu. Dieu se révèle dans la Bible comme étant un Dieu qui veut nous donner. Jésus a dit « Je suis venu afin que ceux qui croient en moi aient la vie ». Et il ne parlait pas de la vie que l'on a quand on naît, puisque cette vie-là, on l'a déjà. Il parlait forcément d'une autre vie. Et cette autre vie, c'est la vie qu'il a manifestée devant tous ceux qui le suivaient, devant les foules qui le suivaient quand il était sur terre. C'est une vie que Jésus a dit. Il a dit « Je suis venu afin que ceux qui croient en moi aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance ». La vie que Jésus est venu nous démontrer, que Jésus est venu nous apporter, c'est une vie caractérisée par son abondance, sa richesse. Ce n'est pas une vie religieuse. Elle ne va pas consister simplement à venir à l'Église, ou même à lire des textes de la Bible, ou même à faire certaines prières. Non, elle va consister à découvrir, dans l'union avec Jésus, une vie d'une richesse spirituelle, et même autre, une vie d'une richesse exceptionnelle. Je prends un exemple. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, à un certain moment, quand Paul veut dire aux chrétiens de la ville de Philippe, les Philippiens, que Dieu va pourvoir à tous leurs besoins, va leur permettre de vivre vraiment une vie qui vaille la peine d'être vécue, l'apôtre Paul dit « Mon Dieu pourvoira, ou plutôt comblera, si on prend le texte plus littéral, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. » Il ne dit pas « « Mon Dieu fera en sorte que vous ne manquiez de rien, et si vous avez besoin de quelque chose, il vous donnera juste ce qu'il faut. » Non, il dit « Mon Dieu comblera tous vos besoins. » Dieu est prêt, et Jésus est prêt, à nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Non pas le superflu, nous l'aurons si c'est possible, mais tout ce dont nous aurons besoin. C'est-à-dire que les besoins que nous avons, il va faire en sorte qu'ils soient richement pourvus pour que nous puissions nous épanouir. Cet homme a regardé les apôtres et en les regardant, il s'est attendu à quelque chose. Alors nous pourrions poser la question, pour revenir au titre de cette méditation, cet homme a vécu pendant X années à la porte du temple. Mais il ne pouvait pas y rentrer. Il ne pouvait pas y rentrer parce que d'abord il était handicapé, et parce qu'il était handicapé, il n'était pas autorisé, selon la loi, à y rentrer. Il a vécu toute sa vie, jusqu'alors, peut-être avait-il 30, 40 ans, nous ne savons pas, mais c'était un homme d'âge mûr, certainement, puisqu'on dit un homme, on ne dit pas un jeune homme, on ne dit pas un enfant. C'était un homme d'âge mûr, et jusque-là, il n'avait jamais pu rentrer dans le temple. Or, dans la Bible, le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. Parce que pour les croyants de l'ancienne alliance, comme nous disons, pour les croyants qui célébraient le culte juif à l'époque, le temple était le lieu où Dieu manifestait sa présence. Donc il a vécu à la porte de la présence de Dieu. Mais lorsque les apôtres ont répondu à son attente, et Dieu, si nous lui faisons confiance, répondra toujours à notre attente. Lorsque les apôtres ont répondu à son attente et lui ont dit « Mais maintenant, lève-toi. Lève-toi et marche. » Il nous est dit qu'ils l'ont pris par la main pour l'aider et il s'est mis debout et quelques temps plus tard, il est rentré avec eux dans le temple et la Bible dit qu'il était tellement guéri, il avait tellement été... La bénédiction de Dieu avait tellement été riche pour lui qu'il est rentré, il s'est même mis au bout d'un moment à sauter. Certainement de joie, mais parce que la bénédiction que Dieu donne, la manière dont Dieu pourvoit à nos besoins, n'est jamais limitée. C'est toujours dans l'optique de l'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. En tout cas, c'est comme cela qu'il se manifeste dans l'Évangile. Alors, on pourrait se terminer en disant ceci. Sommes-nous vraiment dans le temple ou à la porte du temple? Sommes-nous d'une certaine manière limités par un handicap, par un problème, par une situation difficile que nous n'arrivons pas à gérer? Et avons-nous besoin de toute l'attention de Dieu? Sommes-nous prêts donc à nous attendre à quelque chose de la part de Dieu? Il est bon, il est riche. Il peut nous donner la bénédiction. Il veut que nous puissions vivre une vie d'épanouissement total. Alors, regardons à lui et attendons-nous à quelque chose de lui. Attendons-nous à lui quand nous venons à l'église, attendons-nous à lui lorsque nous lisons la Bible, sa parole, comme nous l'appelons. Attendons-nous à lui quand nous prions. Ne prions pas comme si cela ne changerait rien de toute façon, c'est juste une prière, c'est juste un devoir de religion, religieux. Non, la prière, nous dit la Bible, est quelque chose qui nous permet, et c'est un acte par lequel nous entrons en communion avec Dieu. Et si nous croyons que Dieu existe et qu'il nous voit, même si nous ne le voyons pas, alors nous pouvons nous attendre à recevoir de lui quelque chose. Parce que Dieu aime qu'on le prie, Dieu aime qu'on lui fasse confiance, et Dieu est prêt à répondre à notre attente, pour nous combler, pour combler nos besoins, qu'à son nom soit la gloire. Amen.